Vous êtes sur RTL. RTL présidentielle, le petit déjeuner de campagne.
La grande interview.
Il est très exactement 7h35. Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour participer à cette matinale. Merci et à ce petit déjeuner de campagne. Vous allez tout d'abord répondre aux questions d'Alba Ventura et de François Langlais pour la grande interview.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
On voit bien que pour être président, il faut savoir gérer les crises et elles sont nombreuses. On va commencer, si vous le voulez bien, par la crise sanitaire avec ce nouveau variant Omicron. Le monde entier prend des mesures. Le Maroc, le Japon annulent tous les vols vers leur territoire. De nombreux pays ont aussi suspendu leurs vols en provenance d'Afrique du Sud, d'où est parti le variant. Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations sur ce variant. Donc ces mesures de protection, est-ce qu'elles vont dans le bon sens ou est-ce qu'on cède à la panique ?
On ne cède pas à la panique. Il ne faut pas céder à la panique. Incontestablement, il faut retrouver de la discipline collective sur les gestes barrières. Ces dernières semaines, on a toutes et tous, je pense, baissé un peu la garde. On voit les gens se resserrer les mains, potentiellement se faire la bise, ne pas porter le masque. Il faut retrouver les gestes barrières, même si c'est insupportable, il faut retrouver les gestes barrières. Deuxièmement, mettre enfin en place, ça fait plus d'un an qu'on en parle, ces fameux capteurs de CO2 qui nous permettent de voir la concentration et de devoir aérer ou limiter les
jauges. À l'école ou partout ?
Partout, partout, les capteurs de CO2, c'est pas très cher, ça marche très très bien. Malheureusement, ça fait un an qu'on les réclame, ils sont toujours pas mis en place. Troisièmement, les tests gratuits. À partir du moment où on est de nouveau en période de forte contamination, il faut que tout le monde puisse accéder à des tests. On a des personnes qui...
Il y en a comme ça qui ne se font pas vacciner.
On a des personnes. Là, on est en contamination forte. L'Allemagne a remis les tests gratuits. Il faut absolument que le prix des tests ne soit pas un obstacle à savoir si on est contaminé ou pas, si on doit s'isoler ou pas. Quatrièmement, c'est ce fameux variant Omicron. Alors moi déjà, je supporte pas.
Vous n'appelez pas à se faire vacciner au rappel ?
Bien sûr. Moi j'ai toujours dit, il faut absolument se vacciner. Il faut qu'il y ait une campagne qui aille vers celles et ceux qui ont encore des doutes. On sait qu'il y a des personnes qui sont éloignées des dispositifs de santé depuis trop longtemps. Ils ont des doutes. J'en ai discuté il y a encore quelques mois. Avec le patron de la Croix-Rouge, qui explique très bien que quand on passe 15, 20 minutes, une demi-heure avec une personne, qu'on explique, eh ben, on arrive à lever les doutes. Il faut aussi une campagne de communication qui soit pas celle de Véran, de Castex et de Macron.
C'est-à-dire ?
Et quand vous avez des témoignages dans les hôpitaux, des personnes qui n'étaient pas vaccinées, qui ont développé les symptômes qui se retrouvent en réanimation, ou des personnes qui ont développé des Covid longs, ou des personnels soignants, des médecins, des scientifiques, qui expliquent encore toujours quelle est la réalité de cette maladie. Lisez les témoignages, et j'en appelle aux auditrices et aux auditeurs. Lisez les témoignages des gens qui sont en réanimation. Lisez les témoignages des personnels de santé qui voient arriver des personnes qui n'ont pas été vaccinées, développer des maladies, potentiellement en mourir. Il faut revenir à la réalité. On a presque... La mort a presque disparu de cette pandémie. On parle de la pandémie en permanence et on parle plus des dizaines de morts chaque jour liées à la pandémie. On parle pas des Covid longs.
Donc
il faut convaincre de vacciner. Enfin, permettez-moi, c'est un dernier mot. On parle du variant Omicron. Personne ne comprend rien. Il faut arrêter avec ces lettres totalement débiles que personne ne comprend. On a un variant sud-africain. On a eu le variant brésilien. On a eu le variant indien. Je dis ça pourquoi ? Pas pour stigmatiser des pays, mais pour rappeler une réalité. Nous ne sortirons pas de cette pandémie tant que le monde ne sera pas vacciné.
Justement.
Là aussi, ça fait un an qu'on se bat pour la levée des brevets. Les firmes pharmaceutiques, près de 50 milliards de bénéfices. On est en train de s'installer dans une pandémie où on va aller se faire vacciner tous les 6 mois ou tous les ans.
Cette idée,
les brevets et on vaccine le reste du monde.
Cette idée de supprimer les brevets, effectivement, pour en étant la diffusion, elle est très contestée. D'abord, les chiffres sont pas tout à fait ceux que vous donnez. Hein. Pfizer, par exemple, fait 30 milliards de chiffres d'affaires. C'est pas pareil que les profits. Deuxièmement, AstraZeneca et Johnson vendent leurs vaccins sans profit. Ils les vendent à prix coûtant. Mais sur le fond, les gens sérieux de l'INSERM, par exemple, vous disent, si vous levez les brevets, de fait, vous ignorez le problème principal qui est l'accès aux matières première du vaccin et puis à la sécurité dans la fabrication. Et vous prenez le risque de diffuser des contrefaçons qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur la santé.
S'il vous plaît.
Écoutez, on a aujourd'hui plus de 100 pays réunis dans l'Organisation mondiale du commerce qui demandent la levée des brevets. Et quand on parle, y compris de licence obligatoire, c'est sur l'ensemble des composants des vaccins. L'urgence, c'est d'installer des chaînes de production, notamment en Afrique. On est à 4% de personnes vaccinées. Des variants vont se développer qui vont, à un moment donné, nous percuter tellement fort que tout ce qu'on aura fait pendant 2 ans avec les vaccins, tout ça, ça ne nous protégera plus. Afrique du Sud. Vous vous rendez compte qu'il y avait une réunion essentielle à l'OMC dans ces jours-ci pour justement discuter de l'accès des pays du Sud aux vaccins. Eh bien, cette réunion est annulée.
Donc vous appelez à la levée des brevets ce matin à nouveau.
Je discutais la semaine dernière avec le commissaire européen Breton, justement de cette levée des brevets. Personne ne comprend rien sur le système COVAX de dons aux pays du Sud. On ne sait même pas combien de vaccins sont envoyés en Afrique. On sait que c'est très peu. Ça ne tient pas. On va tous se faire exploser l'immunité des vaccins si on n'agit pas à l'échelle mondiale.
Venons-en à la crise migratoire, s'il vous plaît. Vendredi, vous étiez à Calais, en déplacement dans la région. Vous rencontriez des grévistes de chez Leroy Merlin et vous en avez profité pour faire un crochet pour vous recueillir et discuter avec les associations après la mort de 27 migrants. Vous avez parlé d'abord de politique inhumaine de la part de l'exécutif. Vous voulez dire quoi ? Que c'est le président Macron qui est responsable de ce drame ?
Quand la stratégie, la politique du gouvernement sous l'autorité du président de la République, c'est d'aller rendre les conditions de vie à Calais totalement inhumaines, vous poussez chaque femme, chaque homme...
Ça veut dire quoi ?
Mais quand vous arrachez les tentes, quand tous les deux jours... C'était encore le cas hier. Bien sûr. Mais moi, si vous voulez...
Et donc, Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin demandent à la police d'arracher les tentes ?
Mais bien sûr. Tous les deux jours, vous avez des policiers qui sont sidérés aussi, qu'on leur demande de faire des choses aussi inhumaines, vont prendre les effets personnels, arrachent les tentes, arrachent les duvets, même quand il fait 0 degré ou 2 degrés. Et vous avez des situations où les passeurs deviennent les rois de Calais parce que tout le monde est tellement épuisé. Parfois, après des mois, des années à fuir leur pays, ils n'ont plus qu'une perspective. Ils sont tellement humiliés. Pas de café, les associations harcelées, pas de soins. Eh ben, ils voient la Grande-Bretagne de l'autre côté. Eh bien, ils prennent tous les risques.
On vous entend. Sur le fond, c'était justement à Calais le 26. Vous réaffirmiez que l'immigration n'est pas un problème. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il n'y a pas lieu de limiter les arrivées d'étrangers en France si vous êtes président ?
Je vais vous citer quand même, on parle de Calais, une des exilées qui est morte la semaine dernière dans le bateau. Elle s'appelait Mariam Nouri Amadamen. Elle avait 21 ans. Elle était kurde irakienne. Vous savez, les Kurdes qu'on a abandonnés en Irak et en Syrie et qui combattaient l'État islamique et qu'on a abandonnés aux dictateurs syriens, irakiens et sous l'influence des Turcs. Cette femme de 21 ans rejoignait son fiancé en Grande-Bretagne.
C'est absolument tragique. Je reviens à la question sur le fond, parce que vous êtes présidentiable.
Tout à fait.
Donc les Français sont en droit
de
savoir ce que vous prévoyez.
Mais pour dire qu'à un moment donné, ce dont on parle, ce sont des femmes et des hommes.
Bien sûr. Sur le fond,
ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des concepts de politique politicienne.
Vous dites qu'il n'y a pas lieu de limiter la présence des étrangers en France.
Non. Quand on a 30 à 40 000 migrants économiques qui arrivent tous les ans dans notre pays, discutez-en avec toutes les entreprises, discutez-en avec tous les syndicats de salariés, ça n'est pas un problème. Alors après, j'entends le débat chez les Républicains totalement orbanisé ou zémourisé, où on remet en cause le droit d'asile. La France, c'est le pays de liberté, égalité, fraternité. Nous avons signé des conventions. J'ai parlé de ces femmes et de ces hommes qui ont survécu. Notre responsabilité, notre obligation, c'est de les accueillir. Le regroupement familial, c'est une obligation internationale. Et c'est tant mieux.
Yannick Jadot, la crise en Guadeloupe. Vous savez que le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, est en Guadeloupe depuis hier soir avec dans ses bagages la possibilité de discuter de l'autonomie. Ça, c'est une bonne manière de calmer la situation ?
Non, c'est une manière de divertir le débat. On a une situation en Guadeloupe qui, vous le savez, est dramatique, Dramatique du point de vue sanitaire, dramatique du point de vue social. On a un jeune sur deux de moins de 25 ans.
Certains le réclament.
Mais parce que l'urgence là, c'est de faire du social. L'urgence là, c'est d'investir, vous le savez, dans les services publics notamment. L'hôpital, le CHU de Pointe-à-Pitre est dans un état absolument lamentable.
Vous voulez dire que la Guadeloupe n'est pas assez aidée, puisqu'on dit qu'il y a beaucoup d'aide envers la Guadeloupe
Quand vous avez un jeune sur deux qui est au chômage, quand vous avez un taux de pauvreté de 30%, quand vous avez 90%
des Guadeloupéens et des Martiniquais
qui sont atteints par le chlordécone. Vous savez quelle est la première cause de maladie chez les hommes en Guadeloupe et en Martinique ?
Le cancer de la prostate.
Le cancer de la prostate lié au chlordécone. Que le président
vous
de la République...
Vous remettez de l'argent pour la Guadeloupe, pour les Antilles ? Que le président
de la République, dont le président de la République niait il y a deux ans le caractère cancérogène. Souvenez-vous, il y a deux ans, le président de la République Macron disant le caractère cancérogène du chlordécone n'est pas établi. Comment voulez-vous qu'il y ait de la confiance ? Donc on investit, oui, mais on n'investit pas simplement pour que la Guadeloupe et la Martinique restent totalement dépendantes économiquement de l'Hexagone. Il y a plein de femmes et d'hommes qui ont envie de développer des entreprises locales. Il faut une banque régionale d'investissement.
À propos d'investissement, justement, si on s'intéresse à l'ensemble du pays, vous voulez faire, c'est dans votre programme, 50 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires en plus chaque année pour rénover les logements, renforcer les services publics. Bon, ça représente en gros le budget de l'éducation nationale, 50 milliards. Où trouvez-vous tout cet argent ?
Dans mon programme, chaque euro d'argent public sera conditionné, je l'ai dit, au climat, à la justice sociale et à l'égalité femmes-hommes. Ça veut dire qu'une entreprise comme Total, par exemple, qui bénéficie du crédit impôt recherche, qui bénéficie des exonérations de cotisations, qui bénéficie des marchés publics. À partir du moment où cette entreprise...
C'est pas ça qui vous fera gagner 50 milliards.
Attendez,
on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur.
Attendez, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous discriminez l'argent public, je peux vous dire que vous commencez à faire des économies. La baisse de l'impôt de production, 10 milliards par an, va d'abord aux grandes entreprises...
Vous allez la remettre en cause.
Oui, parce que moi je veux que ces 10 milliards soient donnés aux régions... pour que ces régions se dotent d'un fonds d'investissement dans les entreprises.
Donc, ce n'est pas ça qui vous fera des économies.
Écoutez, on parle de 50 milliards, c'est 2% du PIB. On revient...
C'est pas mal d'argent.
Oui, c'est sûr.
C'est l'équivalent de l'éducation nationale, je le disais tout à l'heure.
C'est nécessaire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui une dette. Vous savez parfaitement que cette dette se refinance à taux zéro aujourd'hui.
En revanche, c'est de la dette.
La dette climatique, elle ne se refinancera pas. La dette démocratique qui fait qu'à force de ne plus avoir d'activité économique sur nos territoires, à force de ne plus avoir de services publics sur nos territoires, à force d'avoir un hôpital, une école, un tribunal, un commissariat en mauvais état, c'est la dette politique que nous sommes en train de payer. Moi, je ne veux pas Zemmour ou Le Pen au pouvoir parce qu'on m'aura expliqué que d'un seul coup, l'enjeu, c'est de gérer notre dette pour les 70 ans qui viennent.
Yannick Jadot, parlons de la crise Hulot, si vous le voyez bien. Il y a 5 femmes qui ont incriminé Nicolas Hulot dans un documentaire diffusé sur France 2. Tous les faits sont prescrits. Cependant, la justice a ouvert une enquête. Vous avez mis l'un de vos porte-parole, Mathieu Orphelin, très proche de Nicolas Hulot, sur la touche parce que vous ne vouliez pas être éclaboussé, parce que vous pensiez qu'il avait couvert ses agissements ?
Non. Parce qu'à partir du moment où Mathieu Orphelin était un proche de Nicolas Hulot, qu'il y a eu des témoignages qui remettent en cause l'entourage de Nicolas Hulot, Mathieu Orphelin, qui n'est évidemment pas responsable...
Donc parce que c'est un ami,
j'essaie de répondre à une question. J'essaie de faire deux phrases pour répondre à la question. À partir du moment où Mathieu Orphelin, évidemment, n'est pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot, mais à partir du moment où il va être interrogé sur ce sujet-là, et moi je veux qu'on entende la parole des femmes, je veux qu'enfin dans ce pays, on entende la parole des femmes et qu'on agisse. À partir de ce moment-là, il doit reprendre sa liberté de parole, il doit porter sa propre parole et qu'il ne peut plus être porteur.
Vous saviez-vous qu'il y avait des accusations contre Nicolas Hulot ?
Non.
Non, jamais.
Vous savez, comme vous et moi, je pense que le premier ouvrage qui a parlé de Nicolas Hulot, c'est Bérangère Bonte, en 2010. Qu'est-ce qu'elle dit, Bérangère Bonte, en 2010 ? Elle dit « Nicolas Hulot est célèbre pour ses infidélités, pour ses adultères. Ça concerne sa vie privée. On ne parle pas du tout d'agression sexuelle.
Donc c'est là que
vous savez la différence. C'est entre un adultère entre personnes consentantes et une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol, ça s'appelle le consentement. Quand c'est non, c'est non. Eh bien, aujourd'hui, ma responsabilité politique, c'est de faire en sorte que notre société change par rapport au Nicolas Hulot qu'on trouve partout, qu'on peut trouver dans la grande entreprise comme dans la petite, alors, qu'on peut trouver dans un théâtre comme dans la politique.
C'est entendu, Yannick Jadot.
Attendez. Maintenant, on a, et c'est dans mon programme, parce que notre programme veut mettre fin aux agressions sexuelles, veut mettre fin à l'impunité. Vous savez qu'on a dans notre pays, ça fait 10 minutes qu'on a commencé ?
Oui. Non,
10 minutes de viol ou tentative de viol. Toutes les 5 minutes, vous avez dans notre pays un viol ou une tentative de viol. Eh bien, les écologistes y mettront fin quand ils accéderont au pouvoir. Ce sera l'impunité zéro parce que nous créons les conditions d'un changement de vision pour sortir de ces logiques où des mecs qui se pensent puissants arrivent en permanence à contraindre et que les femmes n'arrivent pas à parler.
Yannick a un côté trop sage. Ce qu'il nous faudrait, c'est un type qui met les pieds dans la boue, un rocker qui donne envie de passer une nuit à Woodstock avec lui. C'est pas signé Furax, c'est signé Sandrine Rousseau. Vous sentez l'âme d'un rocker prêt à passer une nuit à Woodstock avant d'entrer à l'Élysée ?
Écoutez, là, l'enjeu, c'est que l'écologie arrive à convaincre les Françaises et les Français que...
Si un homme avait dit ça...
C'est compliqué, hein, là.
Non, mais si un homme avait dit ça...
Reconnaissez que dès que j'ai dit trois mots, vous relancez une question. Ce que je veux dire, vous savez, y compris on est dans ce débat, j'ai entendu beaucoup de critiques sur Sandrine Rousseau. Heureusement que des femmes parlent. Mmh. Heureusement que des femmes parlent. On voit à quel point cette parole est souvent trop peu entendue et qu'elle ne se traduit pas en action. Sandrine Rousseau, elle, avec sa radicalité, elle fait revenir des personnes à la politique, tant mieux. Moi, ce que je veux, c'est gouverner ce pays. Je veux gouverner ce pays parce que les débats sur les pulsions de mort, les débats pour réécrire l'histoire... Vous avez Zemmour, il veut réécrire notre passé. Eh bien, moi, je vais écrire l'avenir de notre pays.
Je
ne veux
vous
pas
demander,
des pulsions
d'ailleurs,
de mort, je veux porter des pulsions de vie.
Est-ce qu'un doigt d'honneur, ça disqualifie pour la présidentielle, puisque vous savez qu'il a répondu de cette
mais
manière
ça fait, franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié pour la présidentielle. Un candidat ou prétendu candidat qui est condamné pour haine raciale, je veux dire, le doigt d'honneur, ça fait des mois qu'il le fait à la France. Ça fait 2 mois qu'il le fait aux musulmans. Ça fait des mois qu'il le fait aux juifs. Ça fait des mois qu'il le fait aux résistants. Ça fait 2 mois qu'il le fait aux valeurs de la République. L'écologie, je l'ai dit, ça sera de défendre les libertés. Ça sera de défendre l'égalité et la fraternité. Et on a des problèmes. Vous avez mentionné, je fais la bascule, pardonnez-moi, vous avez mentionné ma visite sur les plateformes Leroy Merlin et Décathlon à Dourges. Il y a 3 jours, après 10, 12 ans, 15 ans dans la même entreprise, vous avez des salariés qui touchent 1200 euros. Ils n'ont jamais monté dans l'échelle des salaires. 1200 euros au bout de 12 ans d'expérience. Et vous avez le groupe Mullier, Leroy Merlin, Décathlon, qui fait des milliards et des milliards et qui a fait des milliards pendant la pandémie. Il va y avoir une négociation entre Leroy Merlin et ses salariés demain. Je demande à la famille Mullier, je demande aux dirigeants de Leroy Merlin de partager un peu le gâteau. On a 5 millions de Françaises et de Français qui se sont battus pendant la pandémie pour tenir la société. Merci. 80% ce sont des femmes dans le ménage, dans tous les services à la personne, dans la distribution, dans l'agroalimentaire.
Merci beaucoup.
Et ben moi, président de la République, il y aura une négociation dans tous ces secteurs pour relever les salaires, changer les statuts et protéger ces femmes et ces hommes pour leur santé.
Merci beaucoup, Yannick Jadot.
Nous aurons l'occasion d'en parler avec les auditeurs d'RTL à partir de...